Eh bien, bonsoir à tous. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Delphine de Vigan à la librairie ce soir. Alors Delphine, nous avons le temps de faire votre connaissance puisque vous avez commencé à écrire votre premier roman en 2001. C'était Jour sans fin, sous un pseudonyme. On en parlera peut-être un petit peu plus tard pourquoi. Et puis, après, vous avez continué quelques temps après avec ce joli recueil de nouvelles de Six jolis garçons et puis Un soir de décembre, qui était un très très beau roman sur la désillusion amoureuse. Et puis, vous avez réellement explosé, on peut dire, en 2008, pour ce très 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 beau roman qui s'appelle donc Nos et moi, dont on a beaucoup parlé à l'époque, qui a été consacré puisqu'il a été aussi prix des libraires, et qui racontait une très très jolie rencontre entre une jeune fille surdouée, adolescente, avec une fille un peu plus âgée qu'elle, qui était SDF, un petit peu en errance. Et voilà, une très très belle rencontre en effet. Et voilà, donc on vous retrouve cette année avec une toute autre histoire, assez sombre aussi, aussi sombre peut-être que la précédente, qui s'appelle donc Les heures souterraines, qui sont sorties aux éditions Lattès, et qui nous raconte alors une histoire extrêmement grave, hein, on peut dire, entre deux personnes. Enfin, en tout cas, ça raconte bien l'histoire de deux personnes parallèles, hein, vraiment. Le destin de Mathilde, qui est cadre dans une grande entreprise, qui élève seule ses trois enfants, qui a une quarantaine, une petite quarantaine, et qui est victime d'une espèce de processus de déstabilisation de la part de son supérieur hiérarchique à partir d'un événement qu'elle n'a pas encore tout à fait situé, mais on va en parler plus tard aussi. Et puis, la deuxième personne dont il est question, c'est Thibault, qui est médecin urgentiste et qui va évidemment soigner les gens un petit peu isolés dans la grande ville, et qui, lui, a quelque chose de terrible à supporter, puisqu'il doit quitter la femme qu'il aime. Il l'aime, mais elle ne l'aime pas suffisamment, et il en souffre énormément, donc il décide de rompre. Voilà. Et tout ça se passe en une seule journée, le lundi 20 mai, et nous allons donc suivre ces deux personnages tout au long de cette journée, heure par heure. Voilà. Alors, pour en revenir à Mathilde, Mathilde est donc victime de ce que l'on appelle, dans le langage courant, du harcèlement psychologique. Son supérieur a décidé un jour qu'elle n'était plus sa préférée. Et pour quelle raison ? Parce qu'un jour, elle l'a contredit, sans vraiment faire exprès. Elle l'a contredit parce qu'elle n'était pas d'accord avec lui. Pour une fois, elle le faisait en public. Et il ne lui pardonnera pas. Et il va donc petit à petit la détruire de manière totalement insidieuse. Voilà. Donc cette jeune femme va se retrouver donc une victime, et évidemment on a cette espèce de d'écho dans l'actualité aujourd'hui, évidemment, hein, c'est une situation dont on entend beaucoup beaucoup parler. On sait que vous avez été vous avez travaillé dans un institut de sondage. Vous étiez directrice d'études et vous étiez spécialisée dans l'observation des relations sociales. Alors, je suppose que cette expérience, cette pratique vous a beaucoup aidé pour écrire cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, évidemment ?
Bonsoir, d'abord. Oui et non, en fait. C'est vrai que j'ai travaillé pendant 11 années dans un institut de sondage où donc je m'occupais d'un département dont la mission était de réaliser des enquêtes dans des grandes entreprises auprès de salariés pour connaître leur niveau d'adhésion à la stratégie de l'entreprise, leur perception de la vie de l'entreprise, des relations professionnelle, des salaires, de la formation, du management, etc. Alors ce sont des enquêtes qui en général sont faites par des grosses entreprises, parce qu'il faut évidemment que l'effectif justifie une telle démarche et que le patron n'ait pas besoin ne puisse pas descendre voir tout le monde pour savoir comment ça va. Donc c'est souvent des très grands groupes qui ont recours à ce type d'enquête. Et moi, mon rôle était de définir des méthodologies d'études adaptées aux objectifs et à l'entreprise, et d'analyser les résultats. Et c'est vrai qu'à ce titre, j'ai pu observer, comme c'était le cas d'ailleurs dans tous les instituts qui travaillaient dans ce secteur, un durcissement des relations professionnelles. Et ce sont des enquêtes de perception, hein, donc où il s'agit vraiment de recueillir l'opinion des gens qui travaillent. De plus en plus de gens qui se déclarent sous pression, qui parlent du stress, qui parlent du manque de reconnaissance, etc. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qu'on a vu émerger, qu'on a quantifié, puisque c'était notre métier. Moi, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et puis, en même temps, on m'avait souvent fait remarquer, d'ailleurs à l'époque de Noé et moi ou des précédents romans, que j'avais pas du tout abordé le thème de l'entreprise dans mes livres. J'écrivais la nuit, et pour moi, je crois que c'était justement, j'avais besoin de vraiment distinguer ma vie professionnelle et ma vie d'écriture. Donc, j'avais pas pris le risque ni le pari de mêler les deux. Et puis, il se trouve que, comme ça arrive parfois, dans cette entreprise, moi, j'ai connu une relation qui a été assez conflictuelle. À un moment donné, quelque chose se modifie dans la configuration professionnelle. Alors, c'est pas du tout ce que je raconte. C'est pas ce que raconte le livre, parce que je voulais pas non plus être ni dans le règlement de compte dans le récit un peu autobiographique de cette expérience. Mais c'est vrai que très clairement, l'idée du livre est née de ce moment-là, qui a été pour moi aussi un moment où, même s'il s'agissait d'ailleurs d'une situation de conflit plus que de harcèlement, le moment où finalement le travail prend toute la place. Et je crois que beaucoup de gens ont vécu ça pour des raisons différentes, souvent parce que quelque chose dérape malgré tout, mais où tout d'un coup le travail entache toute la vie privée et on pense plus qu'à ça, on se réveille la nuit. Et ça m'est arrivé avec évidemment toute la fatigue que ça représente. Et je me souviens très bien un jour dans le RER d'avoir eu l'idée de ce livre, c'est-à-dire de manière très confuse, comme c'est souvent au début, très, très diffuse, de me dire je vais écrire là-dessus, je vais écrire sur la fatigue et je vais écrire sur le moment finalement où on n'a plus du tout envie d'aller travailler. C'est le travail du romancier qui prend le relais et un certain nombre de questions qu'on se pose avant d'aborder l'écriture, de choix qu'on fait, notamment celui justement de ne pas raconter mon histoire, et donc de rencontrer à ce moment-là. Alors il se trouve que j'ai quitté l'entreprise en question, et peut-être qu'il fallait d'ailleurs que je quitte l'entreprise pour pouvoir écrire sur l'entreprise de toute façon. Et je me suis dit je vais écrire ce livre, et si je veux parler de la souffrance au travail, il faut que j'en fasse quelque chose de plus universel que l'histoire, la petite histoire finalement que j'ai vécu, qui n'a pas grand intérêt. J'ai rencontré des gens qui avaient, eux, vécu des vraies situations de harcèlement, souvent très compliquées, souvent très douloureuses, et dont on met vraiment beaucoup de temps à se remettre. Et là, j'ai été assez frappée parce que j'ai parlé dans mon entourage de ce projet en disant j'ai créé un livre qui tourne autour de ça, et souvent c'est comme ça un peu... J'aimerais rencontrer des gens qui ont vécu des situations de harcèlement ou qui, à un moment donné, ont vraiment été abîmés par le travail. Vous vous rendez compte qu'en fait, ça va très vite, quoi. Il y a plein de gens qui connaissent quelqu'un qui a son oncle, qui a son cousin, qui a son meilleur ami, etc. Et en moins de temps qu'il fallait pour le dire, je me suis retrouvée avec une dizaine de personnes à voir, que je ne connaissais pas, mais qui... Toutes, je ne les ai pas vues les 10 d'ailleurs, parce que je voulais, à un moment donné, il faut remettre aussi les choses à distance, mais j'ai vu 4 ou 5 personnes qui m'ont raconté ce qu'elles avaient vécu, et ça m'a permis de nourrir aussi le personnage de Mathilde.
Oui, il y a une chose que vous avez extrêmement bien décrite dans ce processus, c'est la culpabilité dans laquelle se retrouve Mathilde. Oui. Comment, alors qu'on est victime, on se retrouve on se sent coupable et on a honte, voilà. Et c'est cette espèce de voilà de long cheminement qui arrive où on arrive à la honte. Je trouve que vous le décrivez extrêmement bien.
Mais c'est vraiment,
on a vraiment l'impression que voilà que vous avez eu dans votre entourage, enfin une ou en tout cas une expérience très forte avec ça ou en tout cas.
Je crois de toute façon, enfin là vraiment pour le coup, bon, là il y a à la fois évidemment des choses que sans doute j'ai pu ressentir et en même temps le travail vraiment du romancier, quoi, qui consiste à avancer comme ça. C'est comme un espèce de puzzle qu'on met en place. Et c'est vrai que très vite, c'est imposé pour moi, comme étant peut-être la clé de tout ça, c'est la figure du doute, quoi. C'est valable aussi pour Thibault, d'ailleurs, dans un tout autre registre. Mais cette forme de destruction, très silencieuse, très, très insidieuse et souvent très progressive, elle repose essentiellement là-dessus. Elle repose sur le fait de faire douter l'autre. Douter l'autre de ses compétences, douter l'autre de son efficacité, de sa performance. Et ce doute se transforme en effet assez vite en culpabilité. Moi, en tout cas, je me souviens l'avoir vécu. Je travaillais depuis très longtemps dans cette entreprise et je pense que j'y avais fait la preuve de ma compétence. À un moment donné, il m'a dit peut-être que je ne suis plus à la hauteur, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas su saisir en route, etc. Et pourtant, voilà, je crois que j'étais très armée, j'étais très soutenue. Il y a forcément un moment où on doute. Et c'est là que s'enclenche vraiment le mécanisme de destruction.
Alors, il y a... on va parler beaucoup de Thibault après, mais je voulais... aussi mettre l'accent sur justement la troisième personne, enfin en tout cas la troisième et la quatrième personne même, puisqu'il y a la ville qui est très 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 importante dans votre livre, mais surtout alors, évidemment il y a l'entreprise qui est une espèce d'organisme vivant un peu, une espèce de matériau comme ça vivant avec des où l'individu est un peu est un peu dissous, on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai que ça, et à un moment donné vous parlez de tumeur et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que cette tumeur attaque le tissu de l'entreprise, voilà. Oui. Donc, est-ce que vous avez pensé à ça, justement, à cette
C'est vrai que...
cette image.
Oui, enfin, dans le sens où, pour moi, très clairement, le livre s'articule autour de ces deux personnages, donc un homme et une femme dans la ville. Et c'est vraiment ça, l'histoire du livre, peut-être plus que, d'ailleurs, un livre sur l'entreprise, c'est un livre sur la ville, sur la solitude urbaine, sur la solitude moderne aussi. C'est appeler la SNCF et tomber sur des serveurs vocaux et finalement, maintenant, quel que soit l'organisme que vous appelez, pour réussir à joindre un être humain, il y en a quand même pour un petit moment. Donc, et tout ça participe d'un ensemble, alors peut-être qui est encore plus sensible dans la grande ville qu'est Paris, d'une forme de déshumanisation du monde dans lequel on vit. Et c'est ça que j'avais envie de raconter. Alors j'espère parfois avec un tout petit peu d'humour, notamment quand j'évoque les transports en commun ou des choses comme ça, ou même c'est juste ces coups de fil un peu absurdes comme ça, où on essaye de parler à quelqu'un d'autre que cette voix un peu synthétique qui vous répond. Et Mathilde a des espèces de stratégies comme ça pour échapper aux cases qu'on lui propose. Alors, je ne me souviens plus du tout de ce que je voulais dire.
À propos de Mathilde
Non, c'était à propos du troisième personnage, ça me revient. Alors, il y avait ces deux trajectoires comme ça que je voulais mettre en parallèle et qui sont deux formes de solitude différentes, mais en tout cas, deux silhouettes perdues dans la grande ville. Et très vite, la ville s'est imposée comme un espèce de personnage à part entière, tentaculaire, omniprésent, à la fois, en tout cas pour moi, peut-être plus à travers les yeux de Thibault d'ailleurs, totalement fascinant par sa mixité, par son foisonnement, etc. Et en même temps, comme un personnage qui vous broie aussi. Et parce que je crois que la ville nous fait payer le prix fort par moment, et notamment les moments où on est fragilisé. Donc il y a effectivement des tas de descriptions de la ville comme étant ce territoire de rencontres, ce territoire infini de rencontres, de possibles, d'intersections imaginaires, et en même temps peut-être l'endroit où on se rencontre le moins facilement.
D'ailleurs Thibault est vraiment spectateur de cette solitude. C'est vrai qu'il est à la fois acteur et spectateur. C'est-à-dire que lui, il est spectateur parce qu'en fait, il voit la solitude tous les jours dans les clients qu'il rencontre, qu'il visite. Et puis, lui, il expérimente, hélas, cette solitude puisqu'il vit seul dans cette ville. Il est tombé amoureux une fois et apparemment, cette histoire ne fonctionne pas du tout. Donc il se retrouve vraiment seul et totalement... on sent qu'il est dans, lui aussi en situation de manque et de terrible solitude. Hein. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement fragilisé. Et à la fois, on voit ce personnage comme ça, à la différence de Mathilde, qui est un peu, qui est un peu immobile, c'est-à-dire... un peu arrêté dans son élan, au milieu de tout ce flux incessant, on voit Thibaut qui lui circule partout comme dans une espèce de grande carte comme ça urbaine, et on le voit circuler comme ça un peu partout dans la ville. Et on a vraiment l'impression de voir vraiment ces deux personnages à des moments différents.
Oui, c'était important pour moi, ça faisait vraiment partie pour le coup de la construction des livres, enfin du livre, ou des idées comme ça qu'on a a priori avant de commencer l'écriture, qui sont un peu comme des rêves en fait, où on se dit voilà, ce serait un livre où il se passerait ci, il se passerait ça. Et c'est vrai que l'image que j'en avais, c'était ces deux trajectoires. Alors pour Mathilde, à part le trajet d'aller et le trajet de retour, il s'agit en effet d'immobilité, et puisqu'elle va tous les jours dans une entreprise où on ne l'attend plus, où elle a été complètement mise à l'écart et isolée à plus d'un titre, elle a été complètement dépossédée de son travail.
Et puis elle est en attente, elle attend, elle n'a plus rien à faire, elle ne travaille plus, elle est dans son bureau vide.
Ouais, elle attend que la journée se passe. Et puis Thibaut qui est, lui, vraiment au cœur de la ville, le spectateur en effet tout à fait privilégié de la solitude qu'elle abrite, et qui en même temps passe son temps à circuler, à sillonner. Et d'ailleurs, vraiment l'idée de ce personnage, notamment l'idée qu'il soit médecin, est venue d'abord de... Je voulais finalement quelqu'un qui circule pour opposer cette immobilité et ce mouvement. Donc j'ai réfléchi quel métier pourrait faire cet homme qui l'oblige sans arrêt à être dans sa voiture. Donc ça pouvait être... Il aurait pu être chauffeur de taxi, mais en fait il est médecin, parce que là du coup ça m'offrait d'autres possibilités supplémentaires. Mais et quand j'ai rencontré des médecins qui font ce métier, ils m'ont confirmé ça. Ils ont à la fois le stress qui est lié à leur métier et en même temps celui effectivement du chauffeur de taxi qui consiste à aller au plus vite et à se garer. Et voilà, donc c'est en permanence opposé ce mouvement incessant, cette vitesse dans laquelle lui arrive quand même encore à s'insérer, et l'immobilité de Mathilde qui, elle, n'arrive plus à être dans le flow, n'arrive plus à être dans cette vitesse.
Et à la fois, il y a une chose dont elle souffre énormément, Mathilde, c'est cette répétition, les choses qu'elle fait comme ça tous les jours, à la même heure, les mêmes trajets, les mêmes gestes, pour arriver à faire la même chose, rien. Mais en attendant, cette répétition, et c'est quelque chose qui la détruit petit à petit. On a l'impression, vous le dites très très bien dans un passage que je peux lire rapidement. Elle fait chaque jour ce trajet depuis 8 ans, chaque jour les mêmes marches, les mêmes tourniquets, les mêmes souterrains, les mêmes regards jetés aux horloges, chaque jour sa main se tend au même endroit pour tenir ou pousser les mêmes portes, se pose sur les mêmes rampes, exactement. Au moment où elle sort de la gare, il lui semble qu'elle a atteint sa propre limite, un point de saturation au-delà duquel il n'est pas possible d'aller. Il lui semble que chacun de ses gestes, chacun de ses mouvements, parce qu'il a été répété plus de 3000 fois, menace son équilibre. Alors qu'elle a vécu des années sans y penser, aujourd'hui, cette répétition lui apparaît comme une forme de violence faite au corps, une violence silencieuse capable de la détruire. Alors, je voulais justement parler de cette violence silencieuse dont il est souvent question dans les livres de Delphine, puisqu'il en était déjà question dans Nous et moi. Là, je vais vous en parler. La preuve est là. Alors, la preuve est là. J'espère que je vais le retrouver. Voilà. Avant de rencontrer Nos, je croyais que la violence était dans les cris, les coups, la guerre et le sang. Maintenant, je sais que la violence est aussi dans le silence, qu'elle est parfois invisible à l'œil nu. La violence est ce temps qui recouvre les blessures, l'enchaînement irréductible des jours, cet impossible retour en arrière. La violence est ce qui nous échappe. Elle se tait, ne se montre pas. La violence est ce qui ne trouve pas d'explication, ce qui à jamais reste opaque. Donc déjà, dans Noé et moi, il était question beaucoup de violence, en effet, et on retrouve cette violence silencieuse. Alors, pourquoi toujours cette violence est silencieuse dans vos livres ?
Bah oui, faut croire que ça fait partie des thèmes qui m'occupent, on va dire. On dit que les écrivains écrivent toujours le même livre. Non, effectivement, mais c'est, si j'y réfléchis, d'ailleurs, c'est vrai sans doute pour tous les romans que j'ai écrits. C'est vrai que, d'une manière générale, ce qui m'intéresse, c'est la fragilité des êtres. Et j'aime bien partir de la sensation. Et je crois que dans la vie, il y a des tas de choses qui nous oppressent, qui nous questionnent, qui nous interrogent, qui nous étouffent par moments. Et que ça a à voir avec une forme de violence, mais qui est beaucoup moins évidente, évidemment, que si quelqu'un vous met un coup de poing dans la figure. Or, je crois notamment en ville et dans l'entreprise, peut-être que ça, c'est le point commun entre ces deux ensembles, se passent des choses qui sont de l'ordre de la violence, mais qui sont invisibles à l'œil nu. Et quand vous prenez le métro, le RER régulièrement, moi j'ai été très souvent frappée, mais on ne s'en rend compte que dans des moments où on est affaibli, par exemple où on est malade, on a de la fièvre, où on vient d'être déplâtré parce qu'on avait la jambe cassée ou des choses comme ça. C'est là qu'on se rend compte à quel point la ville est violente et à quel point cette violence finalement peut par moment ne pas être perceptible. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de raconter, comment dans des moments de fragilité, de faiblesse, le fait de ne pas pouvoir s'insérer dans le flot, le fait, Mathilde par exemple est quelqu'un qui a été un cadre dynamique, qui a marché vite, qui a doublé les autres, qui a râlé parce que certains étaient plus lents, etc. Et puis un jour c'est elle qui est plus faible entre guillemets, en tout cas qui ne va plus assez vite, c'est elle qu'on bouscule, c'est après elle qu'on râle, etc. Et tout ça effectivement, pour moi, enfin en tout cas, constitue une forme de violence, notamment donc dans la ville, au même titre que évidemment le harcèlement moral ou la pression psychologique est une forme de violence dans l'entreprise. Mais encore une fois, c'est une violence qui ne se voit pas forcément. Et le vrai, peut-être le vrai drame de Mathilde, c'est que tout ça n'a pas d'expression manifeste, ou tellement évidente qu'il serait finalement beaucoup plus facile d'y répondre ou de le contrer. Et la violence de Jacques, par exemple, c'est effectivement une violence très silencieuse. C'est des petites réflexions, c'est des regards, c'est voilà, des petites mesures petit à petit qui sont prises contre elle, qui visent à la déstabiliser, des réunions auxquelles elle n'est plus invitée à participer, des conversations qu'elle n'a plus avec lui, etc. Puis petit à petit, on a une espèce d'escalade dans le livre, voilà, puisque c'est tout est concentré sur une journée où quand même les choses basculent. Et là, il y a une violence plus manifeste quand même qui lui est faite. Mais voilà, c'est vrai que ça, ce qui m'intéresse peut-être, c'est justement ce qui se fait un peu en silence. Et c'était dans Noé et moi, cette petite fille dont finalement la famille a été complètement brisée par la mort d'une petite sœur et qui continue à vivre, à maintenir les apparences, notamment son papa qui est devenu un espèce de champion du poisson pané et du bonheur familial, mais en même temps la blessure elle est là et voilà, et donc c'est d'où cette remarque qu'elle fait que vous avez lue.
De toute façon, oui, il est toujours question de blessure, hein, de toute façon, que ce soit dans Noé et moi. Enfin, on part toujours d'une blessure.
Oui,
c'était
enfin,
déjà
en tout
le cas,
cas
dans votre premier livre, d'ailleurs.
Oui, en tout cas, de fragilité. C'est vrai fragilité, que c'est plutôt ce qui m'intéresse. Voilà, la fragilité des êtres. Et c'est un champ romanesque absolument infini et inépuisable.
Bah, disons que en partant de la fragilité, on cherche aussi à trouver aussi la raison pour laquelle on est au monde, un peu aussi. Hein, comment s'imposer au monde, comment trouver justement sa place dans le monde. Et c'est souvent le cas, enfin en tout cas c'est une question qui occupe souvent les écrivains.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais on parle de fragilité, mais il y a de la force aussi. Hein. Enfin, en tout cas, pour chez Mathilde et Thibault, il y a une très grande force chez les deux, chez ces deux personnages. D'abord, chez Mathilde, une très grande vitalité. C'est peut-être justement sa capacité, justement, à résister, qui participe de cette mécanique. Parce que si elle avait été sortie au premier round en dépression nerveuse, l'histoire n'existe pas et le combat, d'une certaine manière, n'existe pas. Là, le combat entre deux existe parce que, à sa manière, elle résiste. Et d'ailleurs, elle s'épuise dans une forme de résistance qui est vaine. Mais ça, le jour où elle s'en rend compte, c'est presque trop tard.
Oui, mais alors finalement, est-ce que ce n'est pas ça, justement, ce qui vous intéresse dans le livre, justement, cette résistance, enfin, dans ce livre-là ou dans les autres, d'ailleurs?
C'est ce mélange des deux, si vous voulez. Oui, quand je dis que c'est vrai, je m'intéresse à la fragilité, mais je m'intéresse aussi à la force. Et l'histoire de Lou, c'est quand même l'histoire d'une petite fille qui soulève des montagnes. Dans Jour sans fin, c'est pareil. C'est des personnages qui sont souvent ambivalents, comme je crois, c'est une grande banalité, mais enfin, on l'est tous. Quoi. On est tous à la fois traversés par des moments de très grande mélancolie et de grande fragilité, et puis en même temps il y a des moments où on se sent comme un bulldozer capable de tout capturer ou de tout engloutir ou de tout détruire sur son passage. Donc voilà, et ce qui m'intéresse, c'est comment on passe de l'un à l'autre. Par exemple, dans Un soir de décembre, comment un homme de 45 ans qui a tout construit, en tout cas qui s'est construit, qui a une femme, qui a deux enfants, qui a un métier, etc., peut être à un moment donné rattrapé là aussi par une faille, quelque chose qu'il pense avoir oublié, qu'il n'a pas complètement oublié, qui ressurgit d'ailleurs parce qu'il s'est mis en tête d'écrire des livres, ce qui fragilise aussi d'une certaine manière. Et comment cet édifice qu'il a construit, qui paraît extrêmement solide, à un moment donné est ébranlé par le retour d'un souvenir, l'emprise de la mémoire. Et voilà, je crois qu'on est là, à ce moment-là, j'avais envie de raconter comment, finalement, pour avancer, on met un peu des tas de choses sous le tapis, et puis, à un moment donné, ça vous rattrape.
Alors, justement, parlons de ces deux personnages-là, qui ont un destin quand même très parallèle. Ils sont chacun, donc, ils circulent tous les deux dans la ville, ils éprouvent les mêmes sentiments, les mêmes sensations au même moment. Pratiquement, on se dit qu'ils sont faits l'un pour l'autre, ces deux-là. Tout concourt à ce qu'ils se rencontrent réellement. Il y a rencontre, mais la rencontre n'est que fugitive, finalement. Alors, pourquoi vous avez refusé ce happy end, ou en tout cas, alors que tout le roman est construit comme une possible rencontre? Pourquoi vous ne les faites pas se rencontrer?
Bah, je crois que ça aurait été un autre livre. J'ai failli vous dire, parce que je ne suis pas Marc Lévy, mais... je peux même pas vous dire que ça ne m'est pas tenté, mais, parce que ce ne serait pas vrai, mais oui, ça aurait été pour le coup vraiment un autre livre. Ce qui m'amusait, c'était d'une certaine manière de m'emparer de tous les codes du roman de gare. Un jeune médecin, tel qu'on a pu les voir dans des feuilletons, a priori qu'on imagine comme ça, circulant dans la ville, sautant de sa voiture pour aller, pour escalader des escaliers 4 à 4 et aller au chevet de patients plus ou moins abîmés. Et puis, une relativement jeune femme aussi, cadre dynamique, perchée sur ses talons et serrée dans son tailleur, qui marche comme ça avec ses petits talons dans les couloirs du métro. Et ces deux-là, effectivement, je m'amuse, il y a quand même un plaisir d'écriture, bien sûr, que je peux confesser, en tout cas, à les faire se suivre comme ça, et à faire en sorte que le lecteur n'ait qu'une envie, c'est que ces deux-là se rencontrent, et parce qu'en effet, ils sont semblables, et en effet, ils éprouvent des choses finalement assez similaires pour des raisons différentes, et de faire en sorte que le lecteur se dise, mais bon sang, ces deux-là sont faits pour se rencontrer. Et puis en même temps, bah voilà, à vrai dire, j'avais quand même l'idée dès le départ de dynamiter un petit peu ces codes et que l'histoire ne soit pas celle-là, parce que finalement la vie n'est pas ça. La vie, c'est souvent une histoire de rendez-vous manqué, et que vous viviez dans une grande ville ou dans une petite ville ou même dans un petit village, il vous est sûrement arrivé à un moment donné de rencontrer quelqu'un, de croiser un regard, et que quelque chose se passe. D'ailleurs, pas forcément dans une entreprise de séduction. C'est vrai que dans le métro, il y a tellement de monde comme ça, ça arrive finalement assez souvent. Voilà, c'est un échange de regards, c'est un moment où on aimerait dire quelque chose. Moi, ça m'arrivait par exemple de voir quelqu'un pleurer, d'avoir envie de proposer mon aide, et en même temps, il y a quelque chose d'assez absurde. Ou il suffit de lire les annonces de Libération pour voir que tous les jours dans le métro, des gens ont envie de se parler et finalement n'y arrivent pas. Donc voilà. Et c'est comme le livre s'attache à raconter la ville justement dans ce foisonnement infini et en même temps avec toute cette solitude qu'elle abrite, ça m'aurait paru totalement incohérent de faire en sorte qu'après une journée qui a été quand même extrêmement pénible pour l'un comme pour l'autre, ces deux-là se voient et se disent...
bon sang, mais c'est
voilà,
lui.
C'est lui ou c'est elle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quand même quelque chose justement qui est, en tout cas de la part de Thibault, de l'ordre de la reconnaissance. Il reconnaît dans la fatigue de cette femme Oui, dans une forme d'épuisement, quelque chose qui répond probablement à sa propre détresse. Et en même temps, voilà, c'est très compliqué d'aller dire à 7h ou 8h du soir, quand on a chacun sa journée de boulot dans les pattes, allez, poupette, allons boire un verre. C'est rarement comme ça que ça se passe.
Pourtant, ils avaient l'air bien prêts, hein, puisque vous avez bien insisté sur ce fait-là, puisqu'il à deux moments du livre, vous dites pratiquement les mêmes choses les concernant, les mêmes envies, les mêmes désirs.
Oui, tout à fait. Voilà, c'est là où je parle un peu du jeu, jeu avec le lecteur. Mais voilà, évidemment qu'on. Ce qu'on ressent n'est pas unique et qu'heureusement, il y a des gens qui ressentent la même chose que nous. Le tout est de les reconnaître.
Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de cette fin qui pourrait avoir une suite, en fait, finalement. On pourrait imaginer que ces deux personnages vont enfin pouvoir dépasser ce sacré 20 mai qui n'est pas terrible ni pour l'un ni pour l'autre. Bah, est-ce que vous avez eu envie d'imaginer une suite ?
Pas du tout ça. C'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question pour Noé et moi. Et puis là, c'est pas, dans le cadre du concours des lycéens, c'est pareil. Les lycéens me demandent très souvent, est-ce que je vais écrire la suite des heures souterraines. Alors déjà, on m'a demandé d'écrire la suite de Noé et moi, donc on verra après, mais ni dans un cas ni dans l'autre, j'ai imaginé écrire la suite. Je dis pas que je le ferai jamais, parce que peut-être ça peut être amusant dans 10 ans de me dire et certains écrivains l'ont fait, je reprends les mêmes personnages et puis c'est un autre livre, c'est une autre histoire. Mais
Alexandre Jardin vient de le faire.
Voilà.
15 ans après,
on peut jouer effectivement avec ça, mais a priori non. Moi j'ai l'impression que d'une certaine manière, tout est dit, malgré tout dans le livre, même si la fin... d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant quand on écrit, à quel point, finalement, les lectures et les interprétations d'un même texte sont différentes. Et notamment, c'était déjà le cas pour Noé et moi, c'est peut-être encore plus pour Les Heures Souterraines. Des gens, ils voient une fin finalement assez ouverte, assez positive, et d'autres, une fin absolument atroce, confirmant un livre d'un fatalisme achevé. Donc voilà, mais au lecteur justement de s'emparer de cette histoire et d'écrire sa fin. Moi, c'est vrai que j'aime bien imaginer que après tout ils se sont croisés une fois, pourquoi ils se recroiseraient pas, voilà, que peut-être dans un autre moment la rencontre serait vraiment possible. Mais le livre en soi, c'est pas ça. Le livre, c'est vrai que c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Donc voilà. Bon, peut-être dans 10 ans, je viendrai vous parler de la suite.
En fait, vous n'êtes pas du tout superstitieuse, hein, parce que cette histoire de voyante, vous n'y croyez pas du tout.
Non, je vous avoue. Mais non, ce qui m'amusait, c'était que cette femme, justement, qui est mathématicienne de formation, statisticienne, et donc dont la vie jusque-là a été quand même très rationnelle, soit arrivée à un moment donné à un point de fatigue et de doute, comme on le disait, tel qu'elle s'en remet entre les mains d'une voyante. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui y croient. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'un personnage qui n'y croit pas, à un moment donné, ça s'accroche à cette prédiction. Et de fait, la voyante avait raison, d'une certaine manière.
Alors, autant dans ce livre que dans l'autre, les situations sont extrêmement cinématographiques. On pourrait imaginer... d'ailleurs, Noé et moi va devenir un film, je crois, oui. Et est adapté au cinéma... très prochainement.
Oui, là, Noé et moi, donc c'est Zabou Breitman qui va faire le film. Il entre en tournage au mois de janvier.
Et dans celui-ci aussi, on voit très très bien les mouvements de caméra, on voit les images, on voit les mouvements, etc. Et justement, je voulais vous demander quel rapport vous avez justement à l'image. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous quand vous écrivez?
Oui, quand même. Ouais, parce que c'est vrai qu'on me dit souvent que mes livres sont très, inspirent ou suscitent, je cherchais le mot, beaucoup d'images. Moi, j'ai beaucoup d'images quand j'écris. Peut-être encore plus pour Les Heures Souterraines que pour Noé et moi. Où j'avais ce comme un plan de Paris en permanence sous les yeux et cette notion de mouvement justement incessant. Et dans les deux cas, même Mathilde qui est tellement immobile dans son bureau, c'est quand même une espèce de silhouette comme ça qui est en permanence en mouvement, voilà. Et donc tant mieux si ça se ressent après dans l'écriture et dans le livre. C'est vrai qu'il semblerait que là aussi, enfin, Les Heures Souterraines inspirent différentes personnes. Il y a plusieurs, enfin, il est question de plusieurs choses. En même temps, pour moi, l'adaptation n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que à un moment donné, si un réalisateur, si le livre intéresse vraiment un réalisateur et que c'est quelqu'un pour qui j'ai l'admiration, je suis ravie à l'idée que quelqu'un s'empare de Noé et moi, en l'occurrence Zabou, parce que c'est quelqu'un dont j'aime le travail et que l'adaptation comporte forcément une part de trahison, mais je trouve que c'est j'aime bien l'idée que d'être interprété, trahi par quelqu'un comme elle. Pour Les Heures Souterraines, c'est pareil, si ça a un sens, si à un moment donné un auteur s'empare du livre. Un auteur qui a son idée des choses, sa vision des choses, qui a ses propres images et qui, d'une certaine manière, recréera ses propres personnages. Voilà. Sinon, pour moi, il n'y a pas forcément d'intérêt. Enfin, ce n'est pas une obligation que le livre soit adapté. Donc là, pour Les Heures Souterraines, ce n'est pas encore vraiment décidé.
Bon, vous avez... vous êtes sur la liste du concours des lycéens, je pense aussi. Oui. Et vous avez déjà été très reconnue pour le précédent livre, donc Noé et moi. Est-ce que vous, qu'est-ce que ça représente pour vous justement au-delà de cette reconnaissance justement? Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être?
Oui, c'est vrai qu'avant tout c'est une forme de reconnaissance. Là, moi, je plaisantais avec ça en disant j'avais été déjà sur la toute première liste du concours pour Jour sans fin. Je l'ai été donc pour Noé et moi. Puis là, pour Les Heures Souterraines, j'étais bon. Moi, je fais une bonne figurante. Je reste jamais très longtemps. Oui, enfin. Et puis là, cette fois, j'ai passé le deuxième tour. Hein, donc, non, je trouve ça formidable parce que ça donne de la visibilité au livre. Et il faut dire les choses comme elles sont. Qu'en effet, c'est une forme de reconnaissance de la part de gens qui sont quand même des gens de lettres. Et voilà. Donc moi, je ne peux pas nier que je suis sensible à ça. Je m'interdis bien de rêver, évidemment, au prix Goncourt. Il ne faut quand même pas exagérer. Mais voilà, c'est bien pour le livre, c'est bien pour mon éditeur, c'est bien pour tout le monde.
Bon, est-ce que vous avez des projets aujourd'hui? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez déjà un livre en cours?
Non, là, je travaille sur deux scénarios de longs métrages de cinéma, donc, mais qui n'ont rien à voir avec mes livres.
Donc vous avez quand même un sacré rapport à l'image, quand même, finalement.
Bah, il se trouve qu'en fait, avec Noé et moi, j'ai été sollicitée à plusieurs reprises après Noé et moi pour écrire sur des projets originaux. Donc là, il y en a deux que j'ai accepté. Un d'ailleurs, qui est une idée qui repose sur une idée à moi. Un autre pour lequel je travaille avec un réalisateur qui m'a demandé de travailler avec lui. Une fois que j'aurai fini ça, j'ai normalement un autre scénario à écrire qui sera une adaptation d'une des nouvelles des Jolis Garçons. Là, c'est alors au départ, j'étais pas forcément très favorable à l'idée de m'adapter moi-même. Puis en fait, voilà, c'est un livre qui date quand même d'assez longtemps. Comme c'est une nouvelle, tout est à inventer finalement. Donc là, voilà, ça, je vais faire ça après. Et puis j'ai deux idées de livres, comme je racontais aux lycéens que j'ai rencontrés tout à l'heure. J'ai deux idées de livres et pour la première fois, c'est la première fois que ça m'arrive, je n'arrive pas à choisir entre les deux. Donc je suis un peu embêtée parce que normalement après l'écriture d'un roman et le moment où il paraît, je suis dans une période que j'appelle d'incubation, que j'adore d'ailleurs, où je passe plusieurs mois, parce que je suis incapable d'enchaîner deux livres d'affilée, je passe plusieurs mois à rêver au livre, à rencontrer des gens si c'est nécessaire et puis à prendre des notes dans tous les sens. Et alors là j'ai deux carnets et deux projets, donc c'est un peu plus compliqué. Et du coup j'ai pas vraiment les deux pieds dedans dans un des deux projets, donc il va falloir que je prenne une décision pour pouvoir incuber vraiment à 100% sur un de ces deux projets avant de me remettre à l'écriture. Mais de toute façon ce sera pas avant quelques mois parce que j'ai vraiment besoin de digérer d'une certaine manière le livre précédent, l'écriture, la musique, les images que ça a convoqué, etc. Et ça, je me rends compte qu'il me faut pas mal de temps. Pour moi, c'est assez important que à chaque fois de trouver une forme, une écriture, une musique différente pour chaque livre. Et par exemple, après Noé et moi, il a fallu sortir de cette narration à la première personne un peu enfantine, un peu naïve, pour écrire Les Heures Souterraines, qui est un roman à la troisième personne, très abrupte par certains côtés, dont l'écriture est abrupte, et je voulais ça. Donc voilà. Et ces périodes, finalement, de jachère, elles sont nécessaires pour passer d'un univers à l'autre.
Et justement, est-ce que vous allez poursuivre dans cette dimension sociale un petit peu, ou est-ce que vous avez envie de...
A priori, je crois pas. Enfin, je dis pas à long terme, oui, pourquoi pas. Hein, c'est pas souvent, finalement, pour moi, l'écriture part de l'intime, même Les Heures Souterraines, et Noé et moi aussi, même si dans les deux cas, c'est vrai que finalement, ça a rencontré des sujets de société, et là, en ce qui concerne Les Heures Souterraines, avec une certaine actualité. Mais au départ, le mouvement vient beaucoup plus de l'intérieur, donc non, là je pense pas, ou alors à moins que c'est vrai qu'il y a un des deux sujets qui pourrait éventuellement rencontrer un thème plus large ou plus universel, mais bon, c'est des livres plus, enfin ce sont des livres plus personnels, je pense.
Eh bien, il me reste à remercier beaucoup Delphine d'être
venue, à vous
de nous avoir rencontrés.